Cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard, le 8 octobre 1992.
Avant d'entrer dans le problème philosophique, c'est un peu le sommet de la recherche métaphysique. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu la base, c'est pas toujours commode. De sorte qu'il faut un petit peu situer. On reprend toujours une introduction. C'est une reprise. Ceux qui connaissent déjà font l'effort de creuser davantage. Et on peut creuser indéfiniment. Hein. C'est l'avantage de la philosophie. Vous ne pouvez jamais dire en philosophie que vous connaissez. Celui qui dit « Ah, je connais, j'ai déjà vu ça », ça prouve qu'il n'a rien compris. C'est comme pour la parole de Dieu. C'est là l'avantage. Remarquez que en mathématiques, c'est un peu la même chose. Et dans l'ordre pratique, c'est aussi la même chose. Un artiste, il recommence tout le temps. Il n'accumule pas. Il recommence tout le temps. Si c'est un véritable artiste. Mais les hommes sont fatigués, alors ils aiment de répéter. Et alors là, ils accumulent, et on est dans l'ordre de la quantité. On met une pierre, une autre pierre au-dessus, et ainsi de suite. Et on fait un grand tas. Mais quand on arrive au sommet, on a oublié ce qu'on a mis au début. Tandis qu'au contraire, le propre de l'esprit, je dis bien le propre de l'esprit, et non pas de la raison. Le propre de l'esprit, de l'intelligence, et de l'amour, dans ce qu'il a de plus vrai, c'est de tout le temps tout reprendre. L'esprit ne vieillit pas. Et au contraire, je dirais que plus il avance, plus il s'éveille. Et un jour, il s'éveillera pleinement dans la vision béatifique. Ce sera la naissance de notre vie spirituelle. Tant qu'on est sur la terre, on est un tout petit peu dans les catacombes. Vous savez ce que dit Platon, et il exprime ça admirablement. Platon, c'est le poète philosophe, hein, faut pas l'oublier. Alors quand vous êtes un peu fatigué d'Aristote, vous revenez à Platon, poète philosophe, et ça vous repose. Et puis quand vous êtes un peu reposé, vous recommencez avec Aristote. C'est quand même les deux grands génies de l'Europe. Les deux grands génies de notre philosophie, de formes tout à fait différentes, mais de formes complémentaires. Et Platon montre dans la République que nous sommes, nous, pauvres humains, dans la caverne. On est dans la caverne. C'est-à-dire que on voit des ombres. On voit les choses de l'extérieur. Et au noviciat, vous voyez arriver des nouveaux. Vous les voyez de l'extérieur. Il y en a un qui a un nez plus grand que l'autre. Ça va vous faire comprendre son intelligence. Il a des yeux différents que couleurs diverses. Des cheveux aussi, même sur les rases, il reste quand même la racine. Et avec là, il y a la couleur différente. Et on voit l'extérieur, les apparences, les ombres. C'est les apparences. Et puis, progressivement, on voit quelque chose de beaucoup plus profond. L'intelligence s'éveille. Intus legere. Ce que Saint Thomas aime te dire. Et c'est très fort. Et c'est très moderne. Ricoeur ne dirait pas mieux. Intus legere. Lire de l'intérieur. Au fond, tout l'effort de la philosophie, c'est lire de l'intérieur. On vous a appris en classe, au début, maternelle, à lire de l'extérieur, sur un tableau. Oh ! Maintenant, on fait des ensembles, et c'est la même chose. On lit de l'extérieur. B, A, bas. Et puis ainsi de suite, on va en répéter d'autres. On va vous apprendre progressivement à lire de l'intérieur. Pas besoin de lunettes. Parce que les lunettes, c'est encore une accumulation de l'extérieur. Première fois que vous portez des lunettes, c'est très humiliant. C'est vrai. Mais ça reste de l'extérieur. Alors dès qu'on s'aperçoit que c'est simplement une accumulation d'extérieur, très bien, très bien. Tandis que la philosophie vous apprend à lire de l'intérieur. C'est une lumière intérieure qui s'éveille. Et c'est pas de la subjectivité. Évidemment, le danger, lire de l'intérieur, c'est devenir d'un subjectif absolu. Ce que moi je comprends, c'est la vérité. Ce que l'autre à côté ne comprend pas, mais lui, il est resté dans la caverne. Il est resté de l'extérieur. Il n'a rien compris. Vous voyez, il y a un moment de subjectivité pour redécouvrir quelque chose de beaucoup plus profond. Parce que la réalité, est-ce que c'est ce qu'on voit de l'extérieur ou est-ce qu'on vit de l'intérieur? Vous voyez, pour chacun d'entre vous, il y a la vie des gens du monde, de beaucoup de gens du monde. Qu'est-ce que c'est que leur vie? Ils travaillent quand ils sont pour se reposer, ils regardent la télévision. Ce sont des photos, des événements. On regarde les choses de l'extérieur. Et puis ils ne réfléchissent pas, et puis après ils vont dormir en mangeant entre deux, ou pendant. Et puis, soudainement, il y a un petit déclic. On dit, mais c'est idiot. Il y a quelque chose en moi. Je sens les choses. L'intériorité se creuse. Je me mets à méditer, à fermer mes yeux, dire, tiens, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que je suis? Est-ce que je suis uniquement celui qui mange, celui qui travaille matériellement? Un bureau, celui qui regarde des images, la télévision, qui entend, celui qui mange et qui dort. Non, ça c'est extérieur. Il y a un déclic. Je me mets à méditer, à réfléchir, cogito. autres ne voient pas ce que je pense et je réfléchis. Pauvres individus, ils me voient de l'extérieur. Fermez les yeux et dit, il dort peut-être. Ferme les yeux, il doit dormir. Pas du tout, il vit bien plus. Parce qu'il vit de l'intérieur. Et puis, il s'approfondit. Il aime. Il pense. Et quelquefois, il pense beaucoup plus profondément. Vous voyez, l'horizon du matin. L'horizon du matin, vous passez par le stade, vous accourez à toute vitesse à la chapelle. Plus vite possible. Ça, c'est extérieur, c'est la course extérieure. On s'achète. Et puis, on veut prier. On a une bonne volonté, puis tout d'un coup, la distraction. Le cinéma intérieur. C'est intérieur. Parce que si tout le monde voyait le cinéma extérieur, c'est extraordinaire de voir toutes les projections. Notre cœur joyeux, notre cœur triste, des distractions. On a appris une mauvaise nouvelle. Ah, c'est rude. On garde ça dans son cœur. Puis on revient. C'est une distraction. Quand on dit une distraction, hein, vous voyez, il y a l'extérieur. Il y a une fausse intériorité, la distraction. L'imagination. On revient à quelque chose de plus profond. On fait tous une petite expérience. Il y a la zone extérieure. Vous recevez, vous accueillez comme je suis heureux. Nouvelle tête, c'est reposant. Pendant un certain temps, parce que très vite, ça devient une vieille tête. Très vite, au bout de quelques jours, maintenant je sais, je te connais. On ne connaît pas du tout. Mais quand même. Et puis, on s'imagine, on a une petite image, et puis on creuse, et on arrive à quelque chose de beaucoup plus profond. Intus legere, lire de l'intérieur, soi-même se regarder de l'intérieur, voir les autres dans une perspective beaucoup plus profonde, et surtout, si on est croyant et si on découvre qu'il existe un être premier, celui-là, je sais que je ne peux pas le voir, que je ne peux pas le toucher, et cependant, il est plus présent à mon esprit que je ne suis présent à moi-même. Vous voyez tout de suite l'aspect religieux. Et l'aspect de la foi aide énormément à l'intériorité. Un croyant ne peut pas vivre une foi de l'extérieur. Impossible. Impossible. Parce que Dieu ne sait pas ce que je touche. Dieu ne sait pas ce que je vois. Dieu ce n'est pas ce que j'imagine. Dieu n'est pas dans mes distractions. Distraction, c'est le tumulte. Tu n'es pas dans le tumulte. Tu n'es pas dans l'agitation. Il est au plus intime de mon cœur, de mon esprit. Vous voyez, la foi et l'attitude religieuse conduisent à une réflexion intérieure, philosophique. Croyant, sort de la caverne pour découvrir quelque chose de beaucoup plus profond qui lui permet de regarder toutes les personnes humaines de l'intérieur. Vous voyez, c'est ce gros passage extraordinaire. Historiquement, on voit ça. Et historiquement, pour chacun d'entre nous. Quelle différence y a-t-il d'entrer au couvent et la vie ex-avant. Si on pouvait mesurer, si vous aviez possibilité de mesurer avant tout ce que vous avez vécu, c'était très extérieur. Puis vous vous êtes mis à réfléchir, à penser, à regarder les choses de l'intérieur. On sort de la caverne. Mais c'est une très belle image, vous savez. La caverne de Platon, c'est quelque chose de très très beau. Les gens croient que la réalité, c'est ce qu'on voit. Ça, c'est les journalistes. Ils voient les choses de l'extérieur. C'est les photographes. Ils voient les choses de l'extérieur. C'est très bien. Il y a une réalité. Il ne faut pas l'abandonner. C'est très vrai. On voit les choses de l'extérieur. C'est quelque chose de vrai. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus vrai, beaucoup plus intime, mais qui est beaucoup plus difficile à atteindre. Mon intériorité. Ce que je vis en moi et que les autres ne voient pas. Passer de l'extérieur à l'intérieur, c'est à partir de là qu'il y a un souci de recherche de vérité. La philosophie naît à partir du moment où vous recherchez la vérité. Mais vous posez tout de suite la question, qu'est-ce que c'est que la vérité ? C'est pour ça que ce passage de l'évangile de Saint Jean est si important, parce qu'on voit que Jésus s'adapte à Pilate. Comment Jésus peut-il atteindre Pilate ? Comment Jésus peut-il atteindre le monde romain, transplanté à Jérusalem ? Le monde romain représente la puissance. La puissance, c'est extérieur. On domine de l'extérieur. Quand un pays envahit un autre pays, c'est de l'extérieur. Et il met ce pays sous son joug. Il en fait des esclaves. Comment le marxisme a-t-il dominé tous les pays alentours ? Les amis, sous la domination. Comment Jésus regarde-t-il Pilate, le Romain ? La puissance. J'ai très connu que tout de suite, il donne une leçon étonnante à Pilate. L'amener à une intériorité. Qu'est-ce que c'est que la vérité ? Dès que vous vous posez la question, qu'est-ce que c'est que la vérité ? Vous intériorisez. Vous ne pouvez pas poser la question autrement. Jésus conduit de l'extérieur à l'intérieur. C'est vraiment cela qui est le grand passage philosophique. C'est pour ça que la philosophie est indispensable pour le chrétien. La philosophie, c'est pas quelque chose qui est extérieur à moi, c'est pas une spécialité. C'est-à-dire une connaissance chimique, la chimie. On ne vous demande pas de faire de la chimie. Même pas des mathématiques. Si vous êtes bon en mathématiques, tant mieux. Mais c'est pas ça. C'est pas assez intérieur, les mathématiques. C'est pas assez intérieur. Il faut aller plus loin. Il faut découvrir quelque chose d'intérieur. Socrate, le grand pédagogue au plan philosophique, connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même et connais Dieu. Vous ne pouvez pas vous connaître vous-même sans connaître Dieu. Et Dieu, c'est l'invisible. C'est le Dieu caché. Alors qu'est-ce que c'est que l'invisible ? On peut dire, oh, je ne sais pas, c'est la foi. Domaine de la foi. Moi, je crois, c'est tout. Et puis je vois les choses. C'est la seule chose qui m'intéresse. Ce que je vois, ce que je m'intéresse. Et puis il y a Dieu. Il y a la foi. C'est ça qu'on appelle la foi du charbonnier, vous voyez. Il est habitué à vivre avec du charbon. Des choses visibles. Et puis il y a la foi. Et là on lui demande un petit peu, mais qu'est-ce que votre foi ? Ah, j'en sais rien. Mais j'ai la foi. Je veux pas savoir. Parce que dès que je veux savoir, ça devient compliqué. Ah oui, ça devient compliqué, mais il faut peut-être essayer de comprendre un peu ce que vous êtes. Ne vivez pas comme un petit animal. Chaud, froid, humide, sec. Un petit animal uniquement qui vit dans les sensations. Et qui le reste pas du tout. C'est la seule chose qui intéresse. On vit de l'extérieur. Si vous êtes croyant, vous devez comprendre que Dieu, c'est le Dieu invisible. Le Dieu caché. Quelque chose de tout intérieur. Et si vous qui êtes croyant, donc en vous, il y a une intériorité. Connais-toi toi-même. Connais-toi comme tu peux te connaître de l'intérieur. Et non pas à la manière des autres qui vous voient de l'extérieur. Mais du visible à l'invisible. C'est le livre posthume de Merleau-Ponty. Et Merleau-Ponty est mort il n'y a pas si longtemps. Et c'était quand même un philosophe qui a cheminé du visible à l'invisible. Et pour lui, c'est le grand cheminement du philosophe. Il y a le visible. Il faut, si je travaille manuellement, je travaille sur le visible. Et je suis attentif à ça. Je suis attentif à regarder ce que c'est que ce visible. Et je peux travailler dessus. Et je suis très attentif à cela. Oui. Mais cette attention peut aller plus loin. Je vais passer à l'invisible. Et l'invisible en moi est plus réel que le visible. Si je suis croyant, c'est tout de suite, Dieu est invisible et c'est le plus réel. Si je ne suis pas croyant, je découvre qu'il y a en moi une capacité spirituelle qu'on appelle l'âme. L'âme, je ne la vois pas. Pourtant, c'est ça qui est source de toute ma vie. Et que c'est que mon âme ? Mon âme, je ne peux la connaître que de l'intérieur. Alors évidemment, je peux dire, pas pour de peu. Si je suis croyant, je sais que j'ai une âme créée par Dieu, directement créée par Dieu. Mon corps, il vient de mes parents. Il y a un atavisme. Il est lié à une culture. Mon âme, elle est liée à la culture de Dieu. Oh, tiens, elle vient de Dieu. Elle est apparentée à Dieu. Alors c'est peut-être bien plus intéressant de découvrir la culture de mon père. De mon père qui est le créateur. Quelle est cette possibilité de connaître cette culture de mon créateur? Et pas rester uniquement à mon atavisme. Mon atavisme, c'est gros. C'est mon corps. C'est ma sensibilité. C'est mon imagination. C'est mes distractions. C'est tout ce que je vois. Il y a quelque chose de bien plus profond. Vous voyez, essayez de découvrir que la philosophie n'est pas quelque chose d'étranger à vous. C'est la première chose que vous devez découvrir. Vous avez une fausse idée de la philosophie. Tous. Vous avez une fausse idée, moi aussi. C'est pour ça qu'on doit tout le temps supprimer tous les a priori. Parce que les a priori vous empêchent d'entrer en philosophie. Ne dites surtout pas « Ah, moi je suis fait pour le pratique. Je suis pas fait pour la philosophie. » C'est faux. On est tous faits pour Dieu. c'est un brave athée. Il cherche, celui qui ne cherche plus, ben, il se met dans une prison. Et petit à petit, il se diminue à la place de croître. Et son horizon diminue, 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 diminue. Et c'est vrai, ça. Parce qu'il veut rester uniquement vers les choses qu'il voit et qu'il palpe. Dès que j'intériorise, dès que je découvre ce monde intérieur, que je porte en moi, au-delà de l'imaginaire, dans la pensée, mon cœur. Ah, je chemine vers Dieu. Je chemine vers ma source cachée. Et je désire la connaître. À ce moment-là, voyez, je suis au-delà de mon patrimoine génétique, qui est à la racine de toute culture. Je dépasse tout milieu culturel. Et je découvre qu'il y a en moi quelque chose d'unique. Je suis lié à l'invisible. Tant que vous n'avez pas découvert que vous êtes lié à l'invisible, vous ne pouvez pas faire de philosophie. Vous répétez des mots, vous n'avez rien compris. Et vous revenez toujours à cet invisible. Ne dites pas que c'est pas fait pour vous. Est-ce que vous avez une âme? Si vous avez une âme, elle est invisible. Alors, qu'est-ce que c'est que cette âme invisible qui est en vous? Vous direz, ah, moi, je m'occupe que de mon corps. Je m'occupe que de mon corps, c'est mon corps qui m'intéresse. Et c'est le corps des autres qui m'intéresse. Oui, vous faites comme les animaux à ce moment-là. Un chien qui voit un nouveau chien. Un ours qui voit un nouvel ours. Qui lui fait des petites tapes d'amitié. Il regarde de l'extérieur. C'est le monde animal. C'est un monde, ça existe. C'est évident que ça existe. Si mon corps, il existe. C'est bien évident. Mais il y a autre chose bien plus important. Connais-toi toi-même. Et c'est très curieux de voir tous les points de départ qui nous conduisent à la philosophie. Et je crois que ça, c'est très important. Parce qu'on a un a priori. La philosophie, c'est pas fait pour moi. Je suis persuadé que parmi vous, si vous êtes loyal, il y en a certains qui se disent ça. Un cours de philosophie, de métaphysique, c'est pas fait pour moi. On va se raser. Eh bien, si vous dites ça, vous êtes dans un a priori. Vous-même, vous vous mettez dans une prison. Alors, moi, j'ai pas envie d'être dans une prison toute ma vie. J'ai envie de sortir de cette prison et d'essayer de découvrir ce que il y a de plus profond en moi. Mon attitude religieuse. Vous avez essayé d'adorer ce matin, toucher l'invisible. Vous avez fait un acte de foi à la présence de Dieu, toucher l'invisible, découvrir ce monde invisible, qu'est-ce qu'il est, et vous le portez en vous. Dieu n'est pas extérieur à vous, il est plus intérieur à vous, vous-même. Et si vous aimez quelqu'un, cet amour vous intériorise. Vous voyez, il y a une conversion. Je cite souvent cet exemple parce que pour moi, il est tellement actuel. Un exemple vécu. Ce jeune dominicain de grand Paris pour faire des études. Et à Paris, le Saint-Esprit l'attendait. Un beau jour, une secousse intérieure. Il se met à genoux. Oui, c'est pour qu'il y a le geste. Il se met à genoux en rentrant le soir dans sa petite chambre. Première fois dans sa vie, il avait 25 ans. Il savait pas ce que c'était que se mettre à genoux. Et là, il n'évitait personne. C'était plus fort que lui. Pendant une heure, découverte de quelque chose de purement d'intérieur. Une présence. Il se met à adorer, à prier. Immédiatement, il comprend. Oui, oui. Il faut que je parle à un prêtre, un religieux. Lui qui n'avait jamais parlé à un curé. Des curés, hein. On l'a tenu loin. Puis subitement, ça doit être des hommes de prière. Il doit comprendre cela. Et comme il avait fait des études et qu'il avait entendu un de ses professeurs marxistes intelligents lui dire deux métaphysiques possibles, le marxisme et Thomas d'Aquin. Il n'y en a que deux. Le reste, c'est bourgeois. Descartes, c'est bourgeois. Tandis que le Moyen-Âge, c'est pas bourgeois. Il y a les cathédrales. Il y a quelque chose qui demeure. Il y a derrière une pensée. Et il entre chez les Dominicains. Et je le trouve comme étudiant. Et je sens tout de suite que c'est quelque chose de tout à fait particulier. Et au bout de 15 jours, il vient me trouver. Il me dit cette parole étonnante que je crois que chacun d'entre vous, vous devez prendre pour vous. Dieu, le Christ, a converti mon cœur. Mais il me laisse le soin de convertir mon intelligence. Ça, c'est admirable. Le Christ a converti mon cœur. Et c'est vrai. Il a converti votre cœur. Autrement, vous ne seriez pas ici. Le Christ a converti votre cœur. Il a pris possession de votre cœur. Mais s'il vous laisse à chacun d'entre vous le soin de convertir votre intelligence, et vous n'avez pas le droit de ne pas convertir votre intelligence. Et c'est ça la philosophie, convertir son intelligence pour chercher la vérité. Chercher la vérité, c'est convertir notre intelligence. Alors chacun, on entre dans la philosophie par des portes très diverses, c'est évident. Grâce à Dieu, c'est comme dans la Jérusalem céleste, il y a beaucoup de portes. Eh bien, il y a beaucoup de portes dans la philosophie. Il y a beaucoup de portes d'intériorité. Il y a une intériorité, toujours plus intériorité, toujours plus intériorité. Mais il y a des portes où on entre. Convertir son intelligence. Ici, c'est la conversion de son intelligence. Pour chercher la vérité. C'est ça la philosophie. Alors c'est chacun d'entre vous. L'Esprit Saint vous demande à chacun d'entre vous d'avoir une conscience suffisamment nette pour dire c'est moi qui dois me convertir. Le professeur qui donne des cours personnel en assistant aux cours et en comprenant que les cours sont faits pour vous, ben ça ne sert à rien. Et je serai assez d'accord de vous dispenser complètement. Allez brouter l'herbe, c'est mieux. C'est pas fait pour moi. C'est pas vrai. C'est fait pour chacun d'entre vous. Mais c'est vous qui devez, à ce moment-là, avoir l'initiative de découvrir la vérité. Oui, je crois qu'on ne peut pas être religieux s'il n'y a pas une recherche de vérité. On ne peut pas être chrétien s'il n'y a pas une recherche de vérité. Le monde d'aujourd'hui surtout. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, s'il n'y a pas de recherche de vérité, on est emporté par les propagandes. S'il n'y a pas de recherche de vérité, la seule manière de résister aux propagandes, les propagandes de droite et de gauche, la seule manière d'éviter c'est emporté par les sectes. Et même si on est religieux, on peut être emporté par les sectes. La secte du rationalisme, la secte d'être positiviste, alors on n'entrera jamais dans la contemplation. On sera peut-être un religieux extérieurement. Les mêmes gestes que les autres. Mais à l'intérieur, la foi sera quelque chose de tout à fait extérieur. On n'entrera pas dans le contact profond du cœur à cœur avec le Christ. On restera quelqu'un qui, extérieurement, aura un habit. Chrétienne, c'est quoi? C'est de savoir que ce que nous disons, ce que nous faisons, on le dit et on le fait avec le Christ. Et on le fait pour lui. C'est notre vérité de chrétien, ça. Et cette vérité de chrétien réclame que notre intelligence s'éveille pour le Christ. Notre vérité de chrétien réclame qu'on découvre que notre intelligence est faite pour Dieu. Et si notre intelligence est faite pour Dieu, je n'ai pas le droit de la garder pour moi. Et ne pas chercher la vérité, c'est garder votre intelligence pour vous, pour votre égocentrisme. Ne pas travailler, manuellement, intellectuellement. Les mœurs des travailleurs, c'est manuellement et spirituellement. Ne pas travailler, c'est contraire à ce que l'Écriture nous dit. Celui qui ne travaille pas n'a pas le droit de manger. Si on appliquait ça, celui qui ne travaille pas n'a pas le droit de manger, je vous affirme que très vite vous mettriez à travailler. Loyalement, j'ai pas travaillé aujourd'hui. J'ai rien vu. Je me suis laissé porter. J'ai pas travaillé. J'ai fait aucun effort. Aucune application. Au point de vue de mon travail manuel et au travail spirituel. J'ai fait aucun effort. J'ai pas le droit de manger. Si je mange, je mange le pain des autres. Parce que eux ont travaillé pour avoir ce pain. Je mange le pain des autres. Et si je mange le pain des autres, je suis un voleur. Et donc je commence à vivre dans le mensonge. Puisque le vol, c'est un mensonge. Et je m'enferme dans le mensonge. La vérité pratique dans la vie, elle m'est dit dans l'Écriture. essayer d'avoir des mœurs de travailleurs, d'application. Oui, la vraie philosophie, elle me rectifie à travers tout mon corps, tout mon travail manuel. Et elle rectifie mon intelligence. Je n'ai pas le droit de rester dans un rêve. Éveillé, j'ai pas le droit, parce que ce n'est pas humain, ce n'est pas chrétien. J'ai pas le droit, c'est de l'égoïsme. Je suis pas très conscient, je sais, heureusement, je suis pas très conscient, je suis pas très coupable, mais je n'avance pas. Je pourrais faire 2 ans de noviciat, 3 ans de noviciat, c'est de l'eau qui coule sur la peau d'un canard. Il n'y a rien du tout qui entre. Je reste à l'extérieur. Et je suis responsable de ça. Parce que je suis bien obligé de dire à un moment donné, mais quand même, oui, quelle est ma recherche de vérité, vous voyez ? C'est le point de départ. Les stoïciens faisaient 1 quart d'heure de méditation par jour pour savoir s'ils cherchaient la vérité. Il l'a cherché mal, il l'a cherché. C'est déjà quelque chose. J'aime mieux quelqu'un qui cherche mal la vérité, c'est-à-dire sur un sentier qui n'est pas, qui conduit à une impasse, que quelqu'un qui ne cherche pas du tout. Qui se tourne l'épouse en disant, ah, moi je suis pas fait pour ça. Il y a ce point de vue-là qui est nécessaire au point de départ. C'est une attitude subjective de conversion vers la recherche de la vérité. C'est ça, la philosophie. S'il n'y a pas ça, pas la peine. Pas la peine. Et ça va très loin, alors, si c'est pas la peine. Parce que là, vous allez contre l'Esprit Saint, qui vous demande de convertir votre intelligence. Ça, j'en suis sûr. Il vous demande de convertir votre intelligence. À chacun, selon sa manière. Cette conversion de l'intelligence, passage du visible à l'invisible. On sort de la caverne pour se mettre dans la lumière du soleil. Elle se fait selon des portes différentes. Alors, il faut toujours se rappeler ça. Elle se fait selon des portes différentes. Il y a le travail. Manuel, c'est un accès vers la philosophie. Alors, tous, nous avons travaillé déjà un peu dans notre vie. Mais on n'a peut-être pas pris assez conscience de ce que c'est que ce travail. On l'a fait machinalement. On a appris un métier. Et on travaille machinalement. Sans réfléchir que le travail ennoblit l'homme, que le travail est une source de libération pour l'homme, et de découvrir à travers le travail la noblesse de l'image de Dieu qui est en moi. Vous voyez, le travail manuel, il est visible. Je peux rester uniquement à ce niveau. Mais je peux aussi considérer le travail comme une voie d'accès à quelque chose de beaucoup plus profond. Qu'est-ce qui travaille ? Ben, c'est évident, s'il y a un travail manuel, mon corps est présent. Mes mains, mes pieds, mon regard. Je suis présent à ça. C'est mon âme qui travaille. L'animal ne travaille pas. Le travail est une activité humaine. L'animal ne travaille pas. Les fourmis, elles ne travaillent pas. Elles sont très agitées. Quand vous regardez par terre, ces petites fourmis qui marchent, qui ne font pas des poids très lourds, et qui s'applique. Vous voyez, première conversion. On passe de l'aspect instinctif, extérieur, où on copie et on comprend qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond. On est présent à son travail. Et on s'enrichit par ce travail. On fait quelque chose, mais nous-mêmes, on est modifié par ce travail. Si on travaille mal, on s'abîme. Chaque fois que vous travaillez mal, vous vous abîmez. Et chaque fois que vous travaillez bien, manuellement, vous vous enrichissez. Et vous comprenez ce que c'est que se donner au travail. Vous voyez, le travail est une voie d'accès vers la philosophie. Par cette intériorité du travail, cette conscience, connais-toi toi-même comme travailleur. Connais que tu dois t'appliquer, tu dois être présent à ton travail. Tu ne fais pas un travail machinalement, comme quelqu'un d'endormi, comme quelqu'un d'automatique. Ça se voit tout de suite. Il a de s'ennuyer.
à lui. Je suis attentif à son ennui. Ah, être attentif à l'ennui de quelqu'un. C'est plus facile d'être attentif à sa joie, d'être attentif à son ennui. Alors si vraiment je suis attentif à son ennui, je le secoue. Pas pendant le cours. Je le secoue en dehors. Je lui mets un petit mot. Tu as l'air de t'ennuyer prodigieusement en cours. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Est-ce que tu as pris conscience de ton ennui? Tu as l'air d'être complètement absent, mais absent même de toi. C'est curieux. Tu es là, comme un bonze. Sans faire aucune attention, ni à ton voisin, ni à celui qui parle. Tu t'ennuies. Tu regardes ta montre de temps en temps. Ça va passer, il y a le petit déjeuner après. Grâce à Dieu, il y a le petit déjeuner. Et ça vous éveille quelques fois plus que le cours. On est plus attentif au petit déjeuner qu'on doit prendre qu'au cours. Vous voyez, ça, c'est un petit examen de conscience excellent. Et si vous êtes plus attentif au petit déjeuner qu'au cours, c'est une distraction. C'est pour ça qu'on fait un cours avant. Parce qu'il y a une distraction. Évidemment, c'est une distraction qui est vite faite, parce qu'on regarde la montre, c'est encore 10 minutes de purgatoire. Attentif à son ennui. Je m'ennuie au cours. J'ai pas le droit de m'ennuyer au cours. Vous n'avez pas le droit de s'ennuyer au cours. Parce que vous perdez votre temps. J'ai pas le droit de perdre mon temps. Quand je travaille, je ne perds pas mon temps. C'est la distraction, la perte de temps. On est n'importe où. Comme dans l'horizon, j'ai pas le droit de perdre mon temps. Et je reviens. Et au cours, on ne fait aucune attention. J'ai le droit de perdre mon temps au cours, après tout. Parce que je suis là par obéissance. Hein? Et on fait ce petit raisonnement. J'ai pas le droit de perdre mon temps au cours. Et si je perds mon temps au cours, j'en prends conscience. Et je fais tout ce que je peux pour pas perdre mon temps au cours. Hein? Il faut apprendre à suivre un cours. Ça s'apprend. C'est pas si commode. Parce que peut-être qu'on avait tout à fait autre chose avant. On avait un métier d'ordre pratique. Alors, là, se remettre sur les bancs de l'école quand on a déjà. C'est pas drôle. Hein. C'est pas drôle du tout. Là, il faut apprendre à suivre un cours. Pour ne pas perdre de temps. Puisque j'ai pas le droit de perdre du temps. Parce que quand je perds du temps, je ne travaille pas. Et je m'ennuie. Et j'ai pas le droit de m'ennuyer. Parce que si vous vous ennuyez toute la journée, vous devenez triste. Vous êtes triste quand vous vous ennuyez. Il y a une certaine dose d'ennui, vous savez, dans la journée. Et alors, il y a un palier où on est triste. On dit, ah non, c'est pas fait pour moi. Et ça provient tout simplement que vous n'avez pas pris conscience que vous vous ennuyez. Dès que vous vous ennuyez plus, ah, c'est autre chose. Vous voyez, c'est ça la coopération. Dans un cours, on coopère. Et celui qui fait le cours s'aperçoit tout de suite de ceux qui coopèrent et de ceux qui s'ennuient. Ceux qui s'ennuient à gauche, ceux qui coopèrent à droite. Parce que alors, s'ils s'ennuient, vous voyez, on dira, il faut peut-être faire autre chose. Il faudrait mieux faire autre chose. On va faire autre chose pendant le cours. On demandera des exercices pratiques. Alors, vous apprendrez la cuisine. Vous ne perdrez pas votre temps. Et en faisant la cuisine, vous verrez que c'est du travail. Si vous le faites bien. Et vous verrez que ah tiens, je commence à m'éveiller. Et la cuisine m'éveille. Et la cuisine qui m'éveille me fait comprendre que le travail doit être pour moi quelque chose qui m'éveille. Vous voyez, l'éveil de mon intelligence. De ma conscience, pour passer du visible à l'invisible. Le travail, la découverte du
dit. Et par mon âme, j'ai des initiés.